On a un transfert de richesse qui est en cours et qui est probablement le plus grand qui est connu Bitcoin d'histoire de BTC depuis qu'il existe. Et c'est quelque chose qui va pas mal redistribuer les cartes pour les 5 prochaines années et avec lesquelles il faudra savoir composer. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette 6e émission avec Onchain Sapiens. On se retrouve pour l'analyse on-chain qu'on fait toutes les 2 semaines et avec un Bitcoin qui est sur la pente glissante puisque ce jour, vendredi 7 novembre, au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes autour de 100 000 dollars pour un BTC. Et on va voir que, comme c'est déjà affiché ici à l'écran, on a une zone vraiment à ne pas perdre sous peine de faire un appel d'air qui risque de faire relativement mal. Puisque, comme on le voit au niveau du true mint price, on reviendrait quelque part autour de 80 000 dollars, 82 000, voilà, pour être précis. Donc, c'est un peu un moment clé hein, sur ce début de mois de novembre pour Bitcoin. On avait des espoirs, de bons espoirs, quand on était à 125 000, de peut-être aller chercher un petit peu mieux. Et aujourd'hui, on a la sensation d'avoir un désengagement des participants au marché. C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble, Adrien, et notamment des whales très anciennes qui, petit à petit, sont en train de vendre avec la liquidité aujourd'hui institutionnelle qui le permet. Donc, comme on le disait précédemment en intro de cette émission sur une discussion un peu ouverte, est-ce que nous ne sommes pas sur le plus grand transfert de richesse de l'histoire de Bitcoin?
Mais effectivement, CM, c'est une très bonne réflexion, très bonne remarque. Bonjour à tous. On va se poser justement ces questions assez fondamentales, puisque finalement, comme tu l'as dit, lors de notre dernière vidéo, il y a de ça 2 semaines, on était encore sur des niveaux qui semblaient tenir, même si, comme on l'avait vu, c'était quand même on était sur un fil d'Ariane de voir une dynamique toujours plus baissière, et c'est exactement ce que l'on vit en fait ces derniers jours. On verra justement ces niveaux de prix qu'il ne faut absolument pas cassé par le bas, auquel cas évidemment on pourra se confronter à avoir une belle poche d'air qui nous emmènerait potentiellement sous les 100 000 dollars et plus. Donc on va se poser la bonne question, mais c'est vrai que comme tu l'as dit, en revenant sur ce que cet analyste, cet analyste qui s'appelle Jordi Visser, qui parlait de potentiellement avoir la première, enfin l'IPO de BTC. Donc l'IPO, c'est vraiment l'intronisation en bourse d'une entreprise. Donc ici, par contre, de Bitcoin, un peu essayer de prendre ça en termes de visualisation, que pour la première fois de l'histoire, on a, comme tu l'as dit, les liquidités, mais tout aussi l'ensemble de règles, vu que les États-Unis sont maintenant un peu pro-BTC, que ce soit dans le fait que ça corresponde vraiment à un patrimoine maintenant pour chaque individu. Eh bien, oui, comparé à 2017-2021, on voit beaucoup de gros portefeuilles, des premiers investisseurs qui ont cru au projet Bitcoin prendre leur liquidité. Et ça, on le voit très bien sur les charts. C'est vrai que quand on va regarder, hop, je vais la trouver parce que du coup, elle est un peu plus basse. Voilà, ici, on voit très bien que comparé, si vous voulez, au top précédent même de ce cycle, hein, et je peux reprendre 2017-2021 également, on était sur une di distribution massive. Vous le savez, pour chaque vendeur, il faut bien un acheteur. Et dès qu'il y a un FOMO, ceux qui ont acheter du Bitcoin des mois ou des années auparavant, prennent des profits. On le voit très bien avec la supply ici en bleu, qui généralement, à chaque fois qu'on approche des tops, comme ici 2024 ou ici fin 2024, début 2025, on avait une distribution intensive qui se fait sur quelques semaines, alors que là, ça fait vraiment maintenant, depuis bientôt 5 mois, qu'on est sur ce type de distribution, mais qui se fait beaucoup plus lentement. Il y a une transition très forte qui se déroule. On le verra un peu plus tard. C'est vrai qu'on est sur des millions de prises de profit par jour. Et globalement, c'est aussi pour ça qu'on n'arrive pas à repartir, à redécoller à la hausse, puisque on est un peu dans cette fenêtre qu'on avait déjà vue il y a 2 semaines, potentiellement cette fin de cycle de 4 ans qui fait peur, et puis en plus tous ces investisseurs qui commencent à sortir massivement du marché. Peut-être cette transition, voilà, qui va prendre du temps, mais c'est aussi un nouveau paradigme auquel on fait face.
Yes, et on a pu observer également, je crois que tu l'avais d'ailleurs sur un des prochains graphiques, qu'on avait pas mal de dollars qui avaient été investis sur Bitcoin, notamment sur les profits réalisés, enfin voilà, je sais que tu as plusieurs graphiques autour de ça. Et j'ai trouvé la statistique assez folle récemment quand j'ai vu passer ça. Je ne suis pas allé le vérifier moi-même à compter chaque Bitcoin qui avait été acheté et à quel prix, mais il parlait avec Bitcoin autour de 100 000 de 67% des dollars qui sont investis dessus qui seraient
Ah
en
oui.
perte actuellement. Ça m'a paru paru complètement fou comme statistique. Et je voulais avoir ton avis, donc, justement, d'un point de vue on-chain, parce que ça voudrait dire qu'à 100 000, il y a déjà autant de gens qui sont dans le rouge. Ça paraît complètement dément, pour le coup.
C'est ça. En fait, mine de rien, quand on... Si on avait fermé les yeux entre la mi-septembre et aujourd'hui, la mi-décembre pardon, de 2024 à aujourd'hui, à mine de rien, on est toujours au même niveau de prix approximativement. On était en décembre au-dessus des 100 000 et là, on l'y est encore. Donc, ça fait quand même 11 mois qu'on est sur la même, grosso modo, hein, sur cette même tranche de prix. Donc, forcément, en 11 mois, il y a eu énormément d'argent investi sur Bitcoin, surtout que, bah, évidemment, on a toujours cette dynamique où les ETF, les institutions, les fonds d'investissement arrivent. Et donc, comme tu l'as dit, bah, là, aujourd'hui, on est à peu de choses près, à 64% globalement de tous les dollars investis sur le marché qui l'ont été à un prix supérieur à 100 000 dollars. Alors, c'est bien parce que je trouve qu'on se retrouve aussi sur cette fameuse question, est-ce que tous ces dollars investis sont d'investisseurs qui, comme les cycles précédents, ont plutôt FOMO, c'est-à-dire des investisseurs comme vous et moi, du retail, ou peut-être même des investisseurs qui avaient beaucoup d'argent, mais pas forcément des fonds de pension ou autres, et que, bah justement, à chaque fois qu'on a ce doute sur le marché, on a un peu cette réaction en cascade où tout le monde panique, tout le monde vend à la moindre correction, et on se retrouve au bout d'un moment en bear market. Mais vu qu'actuellement, on se retrouve potentiellement dans ce changement de dynamique, ce changement de main de BTC entre justement retail et institution, est-ce que cette correction ou est-ce que ce type d'investisseur va vraiment paniquer si on corrige sous les 100K, peut-être autour des 90, peut-être autour des 80, ou est-ce que justement ils vont plutôt se dire je suis là pour le très long terme et aujourd'hui investir à 100 000 dollars c'est un très bon prix si on croit par exemple à Bitcoin à 1 million d'ici une dizaine d'années. Donc en fait, tout va dépendre aussi de quel type d'investisseur on a face à nous, puisque là, bah forcément, logiquement, avec autant de dollars investi en perte, on pourrait se poser cette question de dire, ok, est-ce que le marché n'est pas devenu trop lourd à tenir, à supporter, et peut-être qu'on a besoin de corriger un peu plus pour justement faire purger, faire peur, faire capituler là aussi les investisseurs. Et je te propose que c'est intéressant puisque j'ai des graphiques qui permettent d'en parler, dans le sens où on le voit, on a peut-être 65% de tous les dollars investis qui sont en perte, mais globalement sur le marché, on n'est qu'à un peu moins d'une trentaine de pourcents de tous les bitcoins cette fois qui sont dans le rouge. Alors, tu le remarqueras sur ce graphe, CM, c'est que ces 30% à peu près, ce sont ces fameuses zones que l'on avait déjà vues lors de l'été 2024 et aussi lors du printemps 2025. Et que aussi, paradoxalement, pourquoi on parle d'un point pivot extrêmement essentiel, c'est que nous, ce qu'on souhaite rechercher en tant qu'analyste ou investisseur, c'est de voir les... point de bascule entre justement un état d'esprit où oui, on a peut-être des corrections typiques de bull market ou est-ce que ça commence à ressembler à une correction d'un début de bear market. Et typiquement, c'est à peu près 30% d'investisseurs en perte. C'est justement ce fameux point pivot vers cette potentielle bascule. Et c'est pour ça que c'est extrêmement intéressant de surveiller ce qui va se passer dans les jours et semaines à venir. Comme vous le voyez en 2021, on avait déjà touché cette zone, mais on avait rebondi justement en mai, juin, juillet, pour retrouver un nouvel ATH. Par contre, la deuxième fois où ça nous est arrivé, on avait dépassé les 70% et on était vraiment allé bien en dessous. On n'avait pas réussi à se relever. Effet boule de neige, beaucoup d'investisseurs capitulent, vendent à perte. Plus personne ne souhaite accumuler du BTC, donc forcément, on se retrouve en situation de bear market. Et 2017-2018, c'était exactement le même topo. Dès qu'on tombait dans cette zone et qu'on n'arrivait pas à s'en remettre, on avait trop d'investisseurs en perte, trop de capitaux qui fuient le marché finalement. Et on partait dans cette situation de bear market là aussi. Donc, on est vraiment dans cette tranche-là. Et c'est quelque chose dont on en parlait dans les précédents épisodes où justement, à chaque fois, on se disait si on y arrive, bah, ça va être l'occasion de regarder en fait le comportement du marché puisqu'encore une fois, on est tributaire de ce qui va se passer dans la tête et dans le comportement des investisseurs.
Et d'ailleurs, c'est intéressant de voir qu'il y a des tranches vraiment sur ton graphique qui sont bien représentées. Et je pense que si aujourd'hui, par exemple, on passait de la zone où on est autour de 70 et quelques à 60, donc qui est l'intermédiaire suivante, on serait justement dans une zone qui, pour Bitcoin, devrait correspondre entre 75 et 80, tu vois, en dizaines de milliers de dollars. Et si on venait à descendre un peu plus bas, eh bien, on retrouve de nouveau nouveau les zones qu'on a identifiées pour le bear market long terme, là, ce coup-ci, avec la moyenne mobile 200 qui se trouve autour de 55 000 $. Et on voyait sur le graphique précédent qu'il y a des pics assez importants entre 55 et 60. Et c'est là où ça nous amènerait quelque part au niveau de tout ce supply en perte, autour de 40 à 50% qui nous ont fait les points bas précédemment au niveau des bear markets précédents. Donc en fait, c'est assez drôle de voir que le comportement psychologique et la peur des gens sur des tranches de Bitcoin qui sont en perte, ça correspond à ce qu'on peut observer on-chain. Et je pense que c'est une force aussi de pouvoir allier les deux aujourd'hui.
Tout à fait, tout à fait. C'est vrai que autant dans la prise de gain, enfin dans la décision de prise de gain que dans la décision aussi de savoir où réinvestir, on a justement grâce aux données on-chain, en se basant sur les comportements historiques. Donc encore une fois, ce sont des probabilités. Ce n'est pas évidemment une science exacte, je le répète. C'est pas parce qu'on a toutes ces données, ou même que ce soit technique ou on-chain, que évidemment on sait exactement quoi faire au moment précis et on a 100% du temps raison. Mais quand on voit justement, comme tu l'as dit, où on en est aujourd'hui avec ces fameux 30% d'investisseurs qui sont à peu près sous l'eau, et que si on devait justement définir une zone vers laquelle on basculerait définitivement dans un, comment dire, dans une situation assez délicate et peut-être un bear market, c'est évidemment d'aller sous déjà ces clusters entre les 93 et 97 000 $. Parce que quand on reprend ce graphique qui me plaît beaucoup, qui nous montre où est-ce qu'on peut s'arrêter, où est-ce qu'on peut trouver support sur le marché, comme ce fut le cas ici au printemps 2025 et l'été 2024, à chaque fois on se basait sur cette médiane jaune, hop, je vais couper un peu le bruit, pour vraiment se dire, ok, on peut passer en dessous légèrement, mais comme ce fameux V-bottom qu'on veut rechercher pour repartir ensuite à la hausse, comme c'est arrivé aussi au printemps, eh bien en fait, peut-être qu'on peut aller viser cette zone des 93-95 comme cette fameuse lame de couteau, repartir à la hausse après, on serait typiquement dans ce schéma où on aurait assez d'investisseurs en perte pour créer cette panique, pour avoir ces fameux, cette fameuse timeline sur X ou sur n'importe quel réseau, ça y est, on part en bear market, pour repartir ensuite. Alors le but, ce n'est pas d'avoir des œillères, d'être perma-bullish et se dire que dès qu'on tombe dans cette zone, il faut mettre la maison, etc. Le but, c'est de repérer des patterns au niveau du comportement, aussi du prix, et des investisseurs pour savoir quoi faire. Quand on prend ce graphique, c'est vrai que si on va légèrement en dessous cette médiane jaune, qui correspond, comme vous le voyez, en situation de bull market, à un niveau support extrêmement important qu'il faut très vite reprendre pour repartir dans une dynamique haussière. Si par contre, regardez ce qui s'était passé en 2021-2022, on s'installe durablement en dessous, hop, ici, c'est-à-dire qu'on passe en dessous, on a cette lame de couteau, mais cette fois, au lieu de repasser au-dessus, on s'en sert comme d'une résistance, plus comme d'un support. Eh bien, on ira chercher justement ce trough price dont tu as parlé au début, dans cette zone des 82 000 $, qui en plus, quand on regarde ces 82 000 $, c'est cette petite zone d'accumulation ici, qui nous empêcherait justement de basculer dans ce trou d'air et de tomber, comme tu en as parlé, dans cette zone entre les 60 et les 70 000 $. Donc là, qui serait vraiment cette zone effective de bear market où on n'aurait plus qu'un investisseur sur deux en profit et donc l'autre en perte, eh bien globalement, en fait, on veut surveiller ce genre de pattern. Si on rebondit comme ce fut le cas dans ce cycle 2023-2025, on a toujours cette chance, cette probabilité d'avoir simplement, entre guillemets, cette zone de peur maximale, de peine maximale aussi pour les investisseurs. Et si jamais on passe en dessous, comme ce fut le cas en janvier 2022, et également, je ne vais pas forcément zoomer dessus, mais en 2018, ce fut exactement le même pattern, c'est-à-dire qu'on est dans cette tranche-là, au lieu d'être au-dessus, on navigue entre ce fameux dernier rempart du trough min price et ce MBRV min, et on s'en sert plutôt comme d'une résistance, support, mais cette fois support qui lâche, et là en fait on part dans cet état de bear market. Donc le but, c'est pas forcément d'attendre que BTC dévisse encore de 30% pour se dire je vais peut-être sortir du marché pour ne pas emporter tous mes actifs avec moi en bear market, mais plutôt de surveiller ce pattern-là. Si on passe sous cette zone environ, justement, comme tu l'as dit plus tôt, des 100 000 $ et qu'on n'arrive pas à le reprendre, c'est le bon moment pour sortir du marché et se dire, ok, peut-être que le marché n'a pas envie de repartir à la hausse, peut-être qu'il y a trop d'incertitudes, trop de doutes, trop de peurs, trop de ventes, de capitulations et plus assez d'entrées de capitaux pour qu'on reparte à la hausse. Donc du coup, je vais être intelligent, je ne vais pas garder des œillères sur le marché. C'est un peu notre but aussi en tant qu'analyste ou en tant qu'investisseur de s'adapter et pas de rester convaincu et têtu que le marché nous doit une dernière hausse, nous doit une alt season, il faut évidemment prendre ça avec des pincettes et regarder ce qui peut être fait sur ce niveau-là. Donc là, pour l'instant, on est sur le pattern qu'on espère voir des deux précédentes corrections de moins 30% sur ce cycle, et on ne veut pas voir ce qui s'était passé en début 2022 ou début 2018 avec justement des investisseurs qui essaient de repartir, enfin des investisseurs, un marché qui essaye de repartir à la hausse, mais qui butent à chaque fois sur des prises de gains des investisseurs qui sortent du marché, et donc on a cet effet boule de neige qui fait qu'on n'arrive pas à reprendre en tout cas une direction haussière.
Ouais, c'est la cascade qu'on a tendance à voir lors des marchés baissiers, hein, où on rebondit un petit coup pour derrière se renfoncer et ça fait la lessiveuse comme ça pendant des trimestres. Et ce qui est très intéressant, c'est que si on transposait au cycle d'aujourd'hui et qu'on venait justement à revenir autour de la moyenne mobile bleue, là, le Truman Price, qui est autour de 80 000 dollars, 82 000, en gros, on pourrait se faire une fourchette 75-80, grosso modo, et ça serait la zone qui véritablement délimiterait l'entrée en bear market. Alors déjà, la perte de 100 000, si on revient à 80, voire 75, ça ne sera pas fameux pour le coup, mais on peut observer vraiment qu'il y aurait un changement, je pense, psychologique beaucoup plus profond et qui entraînerait un peu la capitulation finale qu'on peut voir à partir du moment où on vient de travailler longuement justement sous ce prix moyen et où on atterrit à la fin et bien sous une zone, comme tu disais, autour de il y a plus que 40 à 50% du supply qui est en gain, et ça peut nous donner pas mal d'indices hein, pour la suite, pour plus tard si jamais ça vient d'arriver, sur le moment aussi où on peut déclencher notre DCA, voire un DCA très agressif pour payer ces moments où ça sera, comme tu le disais, plus d'une personne sur deux qui seront à perte par rapport à ce qu'ils ont investi, notamment sur Bitcoin.
Exact. Puis surtout, en fait, c'est vrai que là, dans cette situation, ce que je regarde, c'est OK, on est proche, on est encore sur ce point pivot, donc troisième fois dans ce cycle. Est-ce que je dois justement paniquer parce que, encore une fois, cette fameuse fenêtre des fins de cycle de 4 ans, est-ce que ce sera différent cette fois-ci? Est-ce que ça ne le sera pas? Parce qu'on a des nouveaux acteurs qui rentrent dans le marché. J'ai envie de vous dire, chacun a sa propre conviction dessus. Moi, ce que je veux, c'est justement ne pas me baser sur des probabilités, on va dire, de saisonnalité, mais plutôt me baser sur le comportement des investisseurs. Et globalement, là, pour le moment, alors je vais retrouver mon graphe que j'avais tout à l'heure, c'est qu'on est sur des niveaux de peine, entre guillemets, maximales, qui justement sont arrivés lors des précédents, ces précédentes corrections du printemps 2025 et été 2024. Ici, comme vous le voyez, ce sont les pertes journalières encaissées de tous les, enfin, de tout le marché. C'est-à-dire que là, on est sur des journées à moins 528 millions. Donc, on a vraiment des investisseurs qui vendent à perte et qui capitulent. Donc, est-ce que justement, on a atteint cette fameuse zone globalement de peine maximale, et là on va prendre quelques jours, quelques semaines, même peut-être comme l'été 2024, un ou deux, trois mois pour justement s'en remettre, et potentiellement voir tout d'un coup moins de ventes à perdre, donc un marché qui commence à se remettre petit à petit de cette liquidation. Ou alors, est-ce que le marché n'a pas fini de nous faire peur quand on voit justement nos fameux détenteurs court terme? Il y en a quasi, il y en a plus que 1 sur 10 qui sont typiquement en gain, c'est-à-dire qu'on a vraiment même 1 sur 10, même pas, je dis n'importe quoi, on a 1 sur 100 d'individus qui sont toujours en profit, donc on est vraiment sur un marché qui, voilà, si autant lors du crash du 10 au 11 octobre, on avait fait mal cette fois aux contrats dérivés, donc aux joueurs de levier, ici on fait vraiment mal aux derniers entrants sur le marché. Alors, tous ceux qui ont FOMO les derniers tops, eux, ils sont quasiment tous à 100% dans le rouge. Et ces fameuses zones nous ont en tout cas permis d'entrer, ont toujours été d'excellentes zones pour vraiment réinvestir et se dire j'achète la peur, mais à condition évidemment de croire toujours en ce cycle haussier et d'avoir ce fameux pattern dont je vous parle depuis tout à l'heure. Le but, c'est pas forcément d'acheter un couteau qui tombe, mais de se dire c'est trop bien, on va passer sous les 100 000 dollars, je vais me régaler par la suite, on va monter aux 130, 150, je vais me faire un beau plus 50%, tout va bien. C'est aussi de regarder si, on est peut-être, encore une fois, dans une configuration où il y a un pourcentage de chances qui existe qu'on soit aussi dans une situation de début de bear market. Donc, le but, c'est vraiment de regarder, OK, on a une capitulation des investisseurs court terme. On voit qu'on prend plus de 500 millions de pertes par jour. Quand on regarde leur SOPR, donc ici, c'est-à-dire le ratio qui mesure si justement ils prennent plus de pertes que de gains, on est sur un ratio qui est quand même, qui parle de lui-même et qui nous montre que oui, il y a beaucoup de capitulation de leur part. Et quand on prend de façon historique, c'est-à-dire sur tous les jours de trading sur BTC, on est à peu près à 14% de chances que ce ratio puisse encore aller plus bas, mais ça veut dire 85% de chances que logiquement il navigue à des niveaux plus hauts. Donc on se dit, est-ce que c'est une zone qui m'intéresse pour faire du DCA? Est-ce que je suis prêt à prendre le risque que peut-être on puisse corriger aussi plus bas? C'est vraiment tout à chacun de prendre considération de tous ces éléments, mais en tout cas, on est dans une zone qui, historiquement parlant, voilà, sur ce cycle 2023-2025, puisque ça a déjà commencé ici lors de l'été-automne 2023, avec cette fameuse zone où tout le monde, dans les nouveaux arrivants, était en perte, bah globalement, en fait, se dire, OK, si on n'est pas en fin de cycle, c'est une zone extrêmement intéressante pour recharger. Si on est en fin de cycle, bah c'est peut-être pertinent de surveiller en fait ces niveaux-là et de voir ce qu'on va en faire. En tout cas, sur le court terme, de au moins, hop, je vais zoomer dessus, si cette fois on se dit on tient ce niveau-là, le but c'est de se calquer sur deux autres indicateurs, donc l'AMA 200 qui est extrêmement pertinente pour tout ce qui est analyse technique et le coût moyen des investisseurs à court terme, puisque justement le but c'est de leur faire reprendre confiance dans le marché pour que la dynamique reparte à la hausse. Donc, si on tient ces niveaux-là, bah, tout comme cela s'est passé, par exemple, en avril, reprendre la MA 200 avec force, repasser au-dessus et s'en servir comme d'un support si besoin, ou reprendre la, justement, fameuse moyenne de coût de détention de ces nouveaux investisseurs, et cette fois, s'en servir comme d'un support, non plus comme d'une résistance, comme ce fut ici le cas, ou justement récemment ici le cas, et là, se dire que oui, j'ai très bien fait d'investir, j'ai très bien fait de prendre le pari justement d'investir sur ces niveaux de prix. Par contre, évidemment, si, encore une fois, on casse en dessous et qu'on n'arrive pas à reprendre cette moyenne jaune ici autour des 100 000, bah, peut-être que je vais cette fois accepter le fait que j'ai pris un petit risque et qu'il y a un petit pourcentage de perte qui va être réalisé si on n'arrive pas à la reprendre, mais que globalement, le risk-reward, comme on le dit, était plutôt intéressant sur ces niveaux-là. Donc, c'est tout à chacun de vraiment faire attention à ça et de prendre ses propres décisions d'investissement. Mais encore une fois, on est vraiment, tu vois, CM, dans l'entre-deux, est-ce que c'est une opportunité générationnelle d'entrer sur BTC ou est-ce que justement on est à l'aube d'un bear market et dans ce cas-là, être très prudent.
Après, comme d'habitude, pour essayer de pallier à ça, hein, à cette incertitude, eh ben, le DCA vous permettra, si vous avez un revenu régulier que vous investissez sur Bitcoin, de pallier à potentiellement une année 2026 qui se placerait sous l'égide d'un bear. Donc, comme je disais dans une des dernières émissions sur YouTube, à la question « est-ce qu'on est en bear market ?», c'est difficile d'y répondre aujourd'hui parce que c'est encore trop tôt. La problématique à laquelle on sera confronté, c'est que lorsqu'on pourra y répondre, c'est lorsqu'on sera sous 75 000 et on aura déjà perdu 40-45% par rapport au top. Donc, c'est dramatique. Donc, aujourd'hui, personnellement, je partirais du principe que si on clôture la semaine là, sous les 100 000, on rentre en bear market, de se dire juste psychologiquement parlant, OK, j'accepte que potentiellement, ça ne va pas très bien se passer derrière. Et donc, j'agis en adéquation avec le plan que je m'en étais fait. Ça peut permettre à des personnes qui sont rentrées tôt à 15, 20 000, etc. sur ce cycle, de sortir, pourquoi pas, autour de 100 000, ce qui reste somme toute honorable et assez honnête si jamais on a un top à 125 000. Le but aussi, c'est de ne pas se désexposer totalement. Et tout en ayant cette poche de cash qui a été régénérée, on peut derrière réinvestir et déployer du capital à bon compte au cours de 2026. Si jamais ça se passe pas bien, tout en gardant un biais qui au long terme est haussier sur Bitcoin, bien entendu, et de se dire que peut-être, voilà, on va se faire peur à 100 000, à 90 000, à 80 000, et que courant 2026, si ce cycle est différent, eh bien, on verra un Bitcoin un peu plus haut. Et si ça n'arrive pas en 2026, que 2026 est bel et bien un bear market, ça arrivera en 2027, en 2028 ou plus tard. Donc, c'est on va dire, comme d'habitude, assez difficile d'en faire une généralité, puisqu'il faudrait pouvoir s'adresser à chaque profil individuellement,
ça,
en fonction de la situation, en fonction du timing, en fonction de votre appétence au risque, de quand vous êtes rentré, quand vous souhaitez sortir. Donc, j'essaie de vous donner les grandes lignes de la projection de ce que ça pourrait donner. Et au plus loin, si on projette vraiment le truc encore plus, eh bien, comme on l'a vu, en termes on-chain et d'un point de vue technique, le bear market pourrait nous conduire quelque part autour de 50-60 000 dollars. Comme d'habitude, c'est des targets qui sont relativement, on va dire, matérialisés d'un point de vue purement des chiffres, c'est-à-dire non psychologiques. Je suppose qu'il y a toujours un monde, si jamais il y avait quoi que ce soit qui se passe pendant une phase baissière, justement,
évidemment,
un échangeur qui saute, on va dire Michael Saylor, MicroStrategy, ça ne se passe pas très bien. Enfin voilà, je me mets à la place de ce qui pourrait se passer comme mauvaise nouvelle au cours d'un bear. Il y a toujours une possibilité que même on aille sous les 50 000. Mais ce qui fait qu'aujourd'hui, en termes de gestion du risque, pour quelqu'un qui serait rentré à 100 000 dollars et plus, mais qui souhaite continuer de faire du DCA et remplir petit à petit son portefeuille lors d'une phase baissière, eh bien, en gros, vous vous exposez, en étant aujourd'hui à 100 000, à peu près à moins 50, moins 60 %, si vraiment ça ne se passait pas bien, et ce qui ferait que par rapport au top de 120 000, si on 125, 126, si on va autour de 50, 55 000 dollars, ça ferait déjà une baisse qui est quand même assez conséquente et qui serait dans les clous toujours de cette baisse de volatilité qu'on observe au travers du temps, puisque pour rappel, le cycle de 2017, c'était en 2018 moins 89% pour Bitcoin. Le cycle de 2021, c'était moins 85 ou moins 77, 2022. Donc, ça devait être encore le cycle précédent pour moins 89. Enfin, ça a fait moins 89, moins 85, moins 77. Et là, donc, sur ce cycle, vu qu'on a eu moins de volatilité, ça ne serait pas déconnant d'avoir un bottom qui se fasse plus tard autour de moins 60% dans ces eaux-là. Allez, moins 50 si ça se passe excessivement bien. Donc voilà, c'est la façon que j'ai aujourd'hui de me préparer au pire, de me dire si bear market il y a, on reverra Bitcoin à 50-60, est-ce que ça me pose un problème? Si ça me pose un problème, comment je réagis à 100 000? Et à partir de là, vous pouvez vous poser un peu toutes ces questions et vous poser, comme je dis souvent, avec un papier et un stylo, comment je réagis si ça fait ça? Est-ce que je suis là pour plusieurs années et est-ce que je m'en fous de pouvoir réinjecter comme ça petit à petit de l'argent au fur et à mesure que Bitcoin déroule à la baisse? Et à partir de là, vous êtes tout à fait serein sur l'avenir puisque vous vous êtes fixé un cadre où vous savez combien vous pouvez perdre au max, combien vous pouvez gagner. Bah, ça, seul l'avenir nous le dira puisque on espère comme tout le monde que le Bitcoin ira se dresser à des centaines de milliers de dollars plus tard. Et ensuite, bah, vous pouvez comme ça jauger un petit peu mieux de comment se déroulera votre aventure, tout en ayant bien en tête que le marché crypto, quand bien même il y a les institutions, etc., on aime bien se raconter de belles histoires. Je suppose que bear market, il y aura. Si ce n'est pas 2026, ça sera peut-être 2027, mais c'est quelque chose qui est arrivé systématiquement dans l'histoire de cet actif qui aime bien nous faire des paraboles et derrière les effacer en seulement quelques semaines ou quelques mois de temps. Donc, je ne pense pas qu'on en soit rendu suffisamment loin en termes de capitalisation et en termes de cyclicité institutionnelle qui a trouvé son début quelque part un peu en 2024 avec les ETF. Je pense que c'est encore trop tôt pour parier sur le fait qu'on n'ait qu'un moins 30 ou un moins 35 ou quelque chose dans ces eaux-là en termes de bear pour Bitcoin. Je pense que le 50-60 sera tout à fait atteint sur ce cycle. La question est-ce que le cycle existe encore? Voilà, ça c'est la question à 20 000.
C'est clair. Non, c'est très bien résumé. Ce qu'il faut vraiment savoir, c'est que personnellement, j'utilise les données on-chain non pas pour avoir raison à chaque fois, non pas pour à chaque fois trouver le bottom ou le top exact, mais vraiment pour comprendre au niveau du comportement du prix où est-ce que je pourrais m'arrêter, comme tu l'as dit, de potentiellement prendre des gains, ou m'arrêter ou commencer à sortir du marché. Si jamais on devait justement corriger sous ces 100 000 dollars, par exemple, et qu'on devait vraiment partir dans un bear market. Il y a un pattern qui, historiquement, s'est fait sur les deux derniers cycles et qui, je le pense, enfin, trois même, parce qu'en prenant même ce qui s'est passé en 2019, par exemple, c'est que si on passe sous cette moyenne jaune, là, pour 2025, et que on s'en sert comme d'une résistance, voyez comme à chaque fois, on a justement ce fameux coup de poignard qui arrive dans le marché, mais voyez comme à chaque fois, on reteste cette moyenne jaune. Donc, c'est arrivé ici en 2018, c'est arrivé ici en 2019 après la correction, c'est arrivé ici en 2022 après la grosse correction. Le but, n'écoutez pas vos émotions s'il y a un flash crash qui nous amène, par exemple, aux 89 000 dollars. Sachez que, historiquement parlant, donc encore une fois, on parle de probabilité, il y aura beaucoup de chances qu'on revienne tester cette moyenne. Et là, ce sera le moment parfait, cette fois, de se dire, OK, j'ai pris le risque, par exemple, de rester dans le marché en espérant qu'on tienne ce support. Si jamais on le casse et que vraiment ça se sert maintenant comme d'une résistance, eh bien là, à ce moment-là, je sortirai. Mais surtout, regardez ce qui s'est passé en 2022. Si jamais vous espériez, vous étiez là aux 47 000 dollars, on a ce fameux crash sur les 33 000, vous dites, je sors ici. Et globalement, faites pas justement acheter haut, vendre bas, racheter haut parce que vous croyez qu'on va repartir à la hausse, revendre bas, etc. Mais plutôt, ok, je me fais violence, je ne vends peut-être pas à ce moment-là, mais dès qu'ici je vois qu'on remonte et cette fois on s'en sert comme une résistance de cette bande jaune, là je sors. Et vous voyez, vous ne serez pas sorti aux 33 000, mais autour des 44 45 000 dollars, ce qui quand même vaut beaucoup mieux, en tout cas à cette époque. Et là, c'est exactement le même pattern qui peut se passer aujourd'hui. On peut très bien passer en dessous, pareil, comme d'une lame de couteau, aller toucher les 80, allez, 8 000 dollars et revenir ici, parce que c'est ce qu'on appelle, je crois, en termes techniques, le rebond du chamor, le dead cat bounce, et se dire, bah, OK, bah, par contre, je vais en profiter si on revient autour des 98, 100 000 dollars et que malheureusement, on n'arrive pas à repasser au-dessus. C'est que, bah, pareil, comme tu l'as dit, potentiellement bear market confirmé, je sors, je me dérisque et j'attendrai un retour franc au-dessus pour vraiment me remettre dans le train. Le but, ce n'est pas forcément, et tout dépend, comme tu l'as dit, de chacun. On peut être des hodlers maximalistes et moi, je ne vends pas, quoi qu'il arrive, avant les, par exemple, les 1 million de dollars. C'est exactement ce que veut faire mon mentor James Check. Peut-être pas les 1 million, mais lui, même si on tombe aux 60 000 dollars, il s'en fout, il n'a pas envie de vendre ses BTC là maintenant parce qu'il est convaincu que dans les mois, années à venir, on sera bien plus haut que le prix actuel. Donc, il se dit, pourquoi prendre le risque de me dire si c'est une petite correction, de vendre maintenant, alors que bon, on ne sait jamais ce qui peut se passer, comme tu l'as dit. Ce marché est très sournois et il n'a pas vraiment envie de nous donner quelque chose de clair et ne répond pas forcément aux besoins de tout le monde. Donc, vraiment, essayer d'être plutôt mécanique que dans l'émotionnel, c'est exactement ce que je vais faire de mon côté. C'est-à-dire que si là, on devait avoir un crash, malgré le fait que, par exemple, j'ai rechargé sur les niveaux des 100 000 dollars, puisque historiquement dans ce cycle, c'est un très bon niveau pour en tout cas espérer avoir de bons gains s'il y a une reprise haussière. Mais si ça ne devait pas se faire et qu'on devait aller toucher ce Truman Price ici par exemple, eh bien je reprendrais le même pattern qui s'est passé en 2018, en 2022, c'est-à-dire rebond au moins sur, ce, sur cette bande-là à peu près et aller retoucher ce, cette bande jaune. Et si jamais ben, on s'en sert comme d'une résistance, là je me dérisque et je me dis ok, j'ai pris ce risque-là. Finalement, le marché n'a pas envie de me donner raison, eh bien, je vais sortir du marché et je ne vais pas être têtu et m'embarquer bah, dans une correction qui nous amènerait, comme tu l'as dit, peut-être sur les 50, 60 000 dollars. Puisque bah, mon objectif, et peut-être comme tout le monde, c'est d'accumuler le plus de fractions de BTC possible. Donc, si je peux récupérer du capital avant de partir en bear market, bah, c'est quand même intéressant de le faire.
Ouais, tout à fait d'accord. Et puis, c'est un peu, ça me rappelait en même temps que tu le disais, la phrase que disait Warren Buffett, on est dans un marché de conviction aujourd'hui quand on investit dans Bitcoin. On le fait à la fois pour développer du capital, mais aussi parce qu'il y a quelque chose en plus derrière. Et ce quelque chose en plus, Warren Buffett, il disait pour les actions qu'en gros, il fallait les sélectionner déjà comme si on voulait les garder toute une vie quasiment, à minima 10 ans, 20 ans, voire plus. Et surtout, il y avait cette phrase, bon, avec un anglais approximatif, vous m'excuserez, « If you can't stomach 50% drop, you don't deserve massive returns later » ou des trucs comme ça. Et donc aujourd'hui, bah, on est pile poil dans cette situation sur Bitcoin où si on ne peut pas accepter qu'il passe de 100 000 à 50 000 avant d'aller à 150 ou 200, eh bien malheureusement, on n'est pas fait justement pour ce marché crypto. Et je pense que c'est ce qu'il faut en retenir. À grosse volatilité, gros retour plus tard, mais c'est un risque aujourd'hui bah, qu'il faut jauger justement et surtout, pour ceux qui ont justement investi ces dernières années sur Bitcoin à 3 000, à 5 000, à 10 000, à 15 000, à 20 000, est-ce que vous acceptez aujourd'hui, en voyant un gain à 100 000 sur votre portefeuille, de le revoir passer entre-temps à 50 000 ? Est-ce que ça vous fait ni chaud ni froid ? Ou est-ce que vous n'êtes pas du tout à l'aise avec ça ? Et à ce moment-là, il faut prendre les décisions qui vont bien et de commencer à reconstituer cette poche de cash. J'insiste là-dessus, puisque sur les derniers sondages qu'on avait fait les dernières semaines, les derniers mois, notamment sur X et le Discord, il y avait 80% de gens qui étaient encore full all-in, notamment sur les altcoins. Donc, j'ai trouvé ça un peu dramatique pour le coup. Ouais. Et c'est beaucoup d'argent qui est en train de passer à la trappe, malheureusement. Donc, plus que jamais, essayez de à la fois de pas être biaisé sur le fait que on va rentrer à coup sûr en bear market. J'essaie moi-même de ne pas m'en convaincre pour justement bah, garder cette allocation qui restera investie sur le marché crypto par tout temps. Et d'un autre côté, vous dire que bah, c'est vrai qu'on a eu ce cycle qui n'a pas été porteur pour les alts pendant ces 2-3 dernières années. Ouais. Et pour autant, eh bien, on a eu un Bitcoin qui est passé factuellement de 15 000 à 125 000. Donc faites attention à vous au cas où bah, les indices, et notamment le S&P 500, etc., il y a cette bulle qui peut-être n'en est qu'au début, peut-être peut-être en est déjà un peu sur la fin. Ça aussi, on le verra que plus tard. Voilà, il faut savoir, il y a des moments comme ça, prendre un petit peu de recul et jauger justement de la pertinence de ce qu'on risque à court terme par rapport au gain qui était latent et le gain que vous avez déjà réalisé ou non. Et il est important de savoir le réaliser de temps en temps quand on a justement des montants importants sur la table.
Yes, exactement, bien dit.
Merci Adrien, c'était super cool. Je pense qu'on vous a donné de nouveau un petit peu de granularité. Adrien qui, comme d'habitude, finalement, c'est un peu l'ange et le démon sur cet enregistrement. J'ai tendance à être un petit peu plus berre, je pense, qu'Adrien. Adrien représente l'espoir et vous donne un petit peu de nuances par rapport à un biais que j'ai qui est peut-être un peu pessimiste et notamment sur cette zone de 100 000. C'est vrai que, comme tu l'as dit, Adrien, il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué et peut-être qu'on se fera juste peur entre cette fameuse zone de quelque part 80, 85 000 et les 100 000. Si jamais on descend à 75-85, on va donner cette zone très élargie, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de passages autour de cet endroit, qu'on remonte par la suite à 100 000 et que ça rebloque sur les 100 000, là, vous saurez définitivement qu'on est en train de rentrer en bear market. Et je pense que ça sera le truc à surveiller véritablement pour déceler les phases en amont, justement, de cette phase baissière long terme qu'on appelle bear market. C'est un mot qui a tendance à tendre un petit peu tout le monde à chaque fois qu'on le prononce parce que ça fait peur, parce qu'on perd beaucoup d'argent et parce que pendant des trimestres c'est la disette et on sait plus trop où le marché va. Mais c'est vrai que voilà, comme on l'a déjà vécu plusieurs fois par le passé, il est bon de rappeler que en effet c'est des moments qui sont pas agréables et qu'il faut s'y préparer, et si on s'y prépare pas, malheureusement on le vit plutôt mal une fois que ça se présente.
C'est ça. En tout cas, vous avez toutes nos cibles pour vraiment essayer de vous faire votre propre idée et encore une fois, ne pas rester têtu sur une situation. Encore une fois, si on avait une boule de cristal, écoutez, on vous la partagerait avec plaisir. Tout ce qu'on peut faire, c'est surveiller les différents niveaux qui, historiquement parlant, nous avaient servi soit de point de recharge, soit de passage en bear market. Donc, c'est le mieux que l'on puisse faire aujourd'hui, en tout cas, par rapport avec toutes les données qu'on a sous la main. Donc, en tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.
Merci à tous. À bientôt. Ciao, ciao.